Tout de suite, c'est notre rendez-vous avec Pour la dignité, cette émission sur les droits humains, tous les premiers lundis du mois, avec et par Régis Coulange d'Amnesty International. Bonjour Régis.
Bonjour Odile. Bonjour à tous. Voilà, alors, une nouvelle émission de Pour la dignité. Nous allons aujourd'hui parler du droit à l'avortement, du contrôle aux faciès. On reviendra sur la lutte des femmes en Iran, la crise humanitaire à Lampedusa. On parlera un peu des Jeux Olympiques de 2024 et de la surveillance qui va en découler. Et puis des activités du groupe dinois, dont notamment la foire aux livres, bien connu des Dinois, qui va se dérouler les 13 et 14 octobre prochains à la salle de l'Atrium. Alors pour commencer, nous allons parler du droit à l'avortement, puisque le 28 septembre, il y a trois jours, c'était la journée internationale pour le droit à l'avortement. Donc Amnesty a sorti une liste de six arguments en faveur de ce droit, hein, bien que c'est sûr que dans l'idéal, si aucune femme n'avait besoin d'avorter, ça serait l'idéal, parce que c'est toujours un grand traumatisme. Voilà, donc on pense donc que criminaliser l'avortement ne le fait pas disparaître, mais le rend plus dangereux. Ce n'est pas parce que l'on empêche des femmes, des filles et personnes enceintes d'avorter qu'elles n'ont plus besoin de cette intervention. Interdire le droit à l'avortement ne fait pas baisser leur nombre. En effet, d'après l'Institut Guttmacher, le nombre d'avortements est significativement le même dans les pays qui l'interdisent ou le restreignent et dans ceux qui l'autorisent. 37 personnes sur 1000 y ont recours dans le premier cas, contre 34 sur 1000 dans le second. Les restrictions imposées par les États contre l'avortement ne font que contraindre des personnes à avorter dans des conditions dangereuses. 22 millions d'avortements dangereux sont pratiqués chaque année selon l'OMS. L'avortement légal est un des actes médicaux les plus sûrs. Lorsqu'ils sont pratiqués ou accompagnés par un ou une professionnelle de santé qualifiée, dans de bonnes conditions d'hygiène, les avortements sont des actes médicaux les plus sûrs disponibles. Mais quand les gouvernements en restreignent l'accès, les personnes sont contraintes de recourir à des avortements clandestins et dangereux, en particulier celles qui n'ont pas les moyens de se rendre à l'étranger ou de se faire soigner dans un établissement privé. Ce qui nous amène au troisième point. Les avortements dangereux sont la troisième cause de mortalité maternelle à travers le monde. Contrairement à un avortement légal réalisé ou accompagné par une professionnelle de santé qualifiée, les avortements dangereux peuvent avoir des conséquences mortelles, à tel point qu'ils sont la troisième cause de mortalité maternelle à travers le monde. 47 000 personnes meurent chaque année suite à des complications liées à un avortement dangereux. Presque toutes les morts et lésions dues à des avortements dangereux auraient pu être évitées. Les décès sont courants dans les pays où le recours à l'avortement sûr est limité ou complètement interdit. Puisque la majorité des femmes, filles et personnes qui ont besoin d'un avortement en raison d'une grossesse non désirée ne peuvent pas y accéder légalement, elles sont contraintes de le faire seules dans des conditions dangereuses pour elles. La criminalisation de l'avortement est une forme de discrimination qui ne fait qu'alimenter les préjugés contre les femmes et minorités de genre. La simple idée selon laquelle l'avortement est illégal ou immoral entraîne la stigmatisation des femmes et des jeunes filles par le personnel médical, les membres de leur famille et le système judiciaire, entre autres. En conséquence, celles qui cherchent à avorter s'exposent à la discrimination et au harcèlement. Chacune devrait être libre de disposer de son corps. Pouvoir prendre soi-même les décisions concernant sa santé, son corps et sa vie sexuelle est un droit fondamental. Forcer une personne à poursuivre une grossesse non désirée ou la forcer à se faire avorter dans des conditions dangereuses constitue une atteinte à ses droits humains. Qui que vous soyez ou que vous viviez, vous avez le droit de prendre des décisions sans peur, sans violence et sans discrimination. Alors en ce moment, sur le site d'amnesty.fr, vous avez une pétition en faveur de Justina, Cette jeune femme se mobilise au quotidien pour que les femmes et toutes les personnes qui souhaitent avorter puissent avoir accès à des informations médicales, être soutenues, accompagnées. Au lieu de valoriser ce travail vital, les autorités de son pays la harcèlent. Son pays, c'est la Pologne, dont la loi sur l'avortement est désormais l'une des plus restrictives d'Europe. L'interdiction quasi totale de l'avortement dans le pays met en danger des milliers de personnes chaque année. Conséquence, des milliers de personnes souhaitant avorter quittent la Pologne vers d'autres pays européens où se fournissent illégalement pilules abortives dans le pays. Au-delà des lois extrêmement restrictives mises en place ces dernières années, les autorités polonaises empêchent les personnes qui défendent le droit à l'avortement de faire leur travail. Justyna a ainsi été accusée d'avoir aidé une personne à avorter illégalement. Le 14 mars 2023, elle a été reconnue coupable, c'est-à-dire aide à l'avortement, par le tribunal de district de Varsovie. Elle a été condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt général. Justyna et ses avocats ont fait appel. Voilà, donc vous pouvez aller signer cette pétition pour dire l'injustice de cette condamnation sur le site amnesty.fr. On va écouter maintenant Barbara Pravi dans sa chanson « Cher ».
8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17 et demi, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça.
Mais c'est trop tôt pour ça.
Barbara, vous êtes sûre ? On t'explique la vie, autour ça s'agite. Et puis il y a cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive, bah ouais. Vous êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu y as pensé.
Bien sûr que tu y as pensé.
8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. Pourtant c'est beau, non? Pourtant tu sais pas bien, la confiance à zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond tu te vois comme ils te regardent eux. Sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoues de conneries. Les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent. Et les larmes dans l'aube, qu'est-ce que tu peux y faire ? Le ciel bleu rend presque le boulevard joli, presque. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant tu te sens prête, tu t'entends raisonner et puis t'abandonner. Maintenant tu t'écoutes.
Maintenant tu t'écoutes.
Tu sais que t'as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime.
D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs, de l'amour, du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, respect, baiser, désir.
Sans le savoir, je m'avançais, j'avançais vers ma chère chérie. Sans le savoir. T'avanceras vers ta chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons. Avançons vers nos chers, chérie. Avançons vers nos chers, guéris. Avançons vers nos chers. Sans le savoir, je m'avançais. J'avançais vers ma chair, chérie. Sans le savoir, tu avanceras. T'avanceras vers cette chair, ma chérie. Maman, on sait, nous avançons. Avançons vers nos chers, chérie. Avançons vers nos chers, guéris. Avançons vers nos chers.
Barbara Pravi, chère.
Voilà. Alors maintenant, on va parler du contrôle au faciès parce que vendredi dernier, s'est tenue devant le Conseil d'État une audience publique dans le cadre de l'action de groupe intentée par 6 associations nationales et internationales des défenses des droits humains pour que cessent les contrôles d'identité discriminatoires ou contrôles dits au faciès en France. En juillet 2021, nous avions saisi donc le Conseil d'État avec ses 5 autres associations. Et nous avions mis en demeure le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice d'engager des réformes structurelles et des mesures concrètes afin de mettre un terme à ces pratiques policières discriminatoires en France. Les autorités avaient 4 mois pour réagir. Leur silence résonne encore. Après plus de 2 ans d'attente, l'audience historique donc, s'est ouverte le 29 septembre 2023. En France, des personnes sont contrôlées par la police simplement du fait de leur origine réelle ou supposée. Notre requête s'appuie sur de nombreux témoignages de personnes ayant subi des contrôles d'identité discriminatoires sur les différentes villes à travers le territoire français, ainsi que ceux de plusieurs policiers confirmant ces pratiques discriminatoires. Des études quantitatives montrent en effet que les hommes et les jeunes garçons perçus comme noirs ou arabes sont ciblés de manière disproportionnée lors de contrôles d'identité ou de fouilles. Nous avons des éléments établissant que la police procède à des contrôles d'identité au faciès, sur la base de caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée. Des études quantitatives montrent en effet que les hommes et les jeunes garçons, noirs ou arabes, sont ciblés de manière disproportionnée. Les effets sont dévastateurs de telles pratiques sur les victimes, y compris sur les enfants âgés d'à peine 12 ans. Alors, ce contrôle faciès est une discrimination systémique qui se définit comme une pratique généralisée ancrée dans un ensemble de règles juridiques, de politiques, de pratiques et d'attitudes culturelles prédominantes qui créent des désavantages relatifs pour certains groupes et des privilèges pour d'autres groupes. C'est la définition du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies. Depuis plus de 10 ans, les instances européennes et onusiennes exhortent les autorités françaises à mettre un terme au contrôle d'identité discriminatoire. Le 28 juin dernier, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a épinglé la France en raison des contrôles d'identité au faciès dans son rapport sur la promotion et protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales des Africains et des personnes d'ascendance africaine face au recours excessif à la force et aux autres violations des droits de l'homme dont se rendent coupables les membres des forces de l'ordre. Quelques semaines plus tôt, le 8 juin 2021, la Cour d'appel de Paris a une fois de plus condamné l'État pour faute lourde dans l'affaire des contrôles d'identité discriminatoires de 3 lycéens qui revenaient d'un voyage scolaire dans une gare parisienne en 2017. L'action de groupe est une procédure innovante. Elle permet à des associations de saisir la justice pour qu'elles contraignent les autorités à prendre des mesures. Dans ce cas-là, celles-ci doivent mettre fin au contrôle d'identité discriminatoire. Des mesures isolées, telles que l'utilisation de caméras piétons ou l'obligation pour les policiers de porter un numéro d'identification, ont montré leur insuffisance. Les autorités ont toujours rejeté toute tentative visant à instaurer un dispositif de traçabilité des contrôles d'identité et de répertorier l'ensemble de ces contrôles. Alors, nos recommandations, de supprimer les contrôles d'identité administratifs, encadrer strictement le pouvoir de la police lors des contrôles judiciaires ou sur réquisition, adopter des mesures et instructions spécifiques pour les contrôles ciblant les mineurs, créer un système permettant de fournir aux personnes contrôlées un justificatif de leur contrôle et d'évaluer ces contrôles, créer un mécanisme de plainte indépendant et efficace, modifier les objectifs institutionnels, les directives et la formation de la police, notamment ce qui concerne les interactions avec le public. Voilà, nous allons maintenant écouter une chanson de Brassens, La mauvaise réputation.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout
le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
Voilà, on va maintenant parler de la situation en Iran, notamment la situation des femmes. Le 20 septembre, le Parlement iranien a adopté un projet de loi visant à soutenir la culture et de la chasteté et du hijab. Un texte qui imposerait des sanctions encore plus dures en cas de non-respect de la législation dégradante et discriminatoire du port obligatoire du voile. Le texte doit maintenant être approuvé par le Conseil des gardiens pour devenir loi. Nous dénonçons ces atteintes graves aux droits des femmes et des filles en Iran. Les fonctionnaires et les médias publics qualifient le fait de ne pas porter le voile en Iran de virus, maladie sociale, troubles ou encore dépravation sexuelle. Alors que depuis la mort de Mahsa Amini en septembre 2022, les Iraniennes et Iraniens manifestent courageusement pour réclamer plus de liberté et le respect de leurs droits fondamentaux, les autorités redoublent de méthodes oppressives pour contrôler et punir les femmes et les jeunes filles. Au lieu d'entendre le message scandé à l'unisson dans les rues du monde entier « Femmes, vie, liberté », les autorités iraniennes continuent de violer gravement leurs droits sociaux, économiques, culturels, civils et politiques et de restreindre leur liberté de mouvement. Plus d'un million de femmes ont été photographiées et identifiées alors qu'elles ne portaient pas de voile dans leur voiture, ont reçu, selon les autorités, des SMS d'avertissement les prévenant que leur véhicule risquait de leur être confisqué. Des milliers de menaces ont déjà été mises en exécution. Des centaines d'entreprises ont été fermées de force pour ne pas avoir fait respecter les lois sur le port obligatoire du voile. D'innombrables femmes se sont vues refuser l'accès à l'éducation, aux services bancaires et aux transports publics. Les tribunaux ont également imposé des peines dégradantes aux femmes reconnues coupables d'avoir enfreint les lois sur le port obligatoire du voile. Par exemple, obligation d'assister à des séances de conseil pour comportement antisocial, de laver des cadavres à la morgue, de fournir des services de nettoyage dans les bâtiments publics, etc. Le projet de loi qui renforcerait encore la discrimination en privant de leurs droits humains, y compris de leurs droits sociaux et économiques, les femmes et les jeunes filles qui choisissent de ne pas porter le voile. Cette loi exposerait toutes celles et tous ceux qui soutiennent le droit des femmes à choisir leur mode d'habillement à de longues peines d'emprisonnement, à la flagellation ou encore à des interdictions de voyager. La communauté internationale ne peut pas se contenter d'observer sans rien dire. Alors, soi-disant, la police des mœurs avait été supprimée suite aux manifestations. Hélas, la police des mœurs est de retour en Iran. Les autorités ne trompent personne lorsqu'elles retirent l'insigne de la police des mœurs sur les uniformes et les camionnettes de patrouille, mais que parallèlement, elles encouragent les partisans de l'oppression par la République islamique et de la soumission des femmes et des filles à participer aux mêmes violences que celles qui ont tué Mahsa Amini. C'est ce que nous déclarait Agnès Calamar, qui est la secrétaire générale d'Amnesty. Le soulèvement populaire qui a eu lieu en Iran reflète la rage de la population face à des décennies d'oppression, nous a dit Eba Morayev, qui est la directrice régionale pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient Amnesty International. Plusieurs vidéos analysées en 2019 ont dévoilé le niveau de brutalité de cette police des mœurs contre les femmes. Ils les arrêtent au hasard dans la rue, les menacent, leur ordonnent de remonter leur foulard pour cacher des mèches de cheveux ou leur donne des mouchoirs en papier pour essuyer leur maquillage. Dans ces vidéos, on les voit les agresser physiquement, les gifler et les pousser sans ménagement dans des fourgons de police. La République islamique veut nous montrer qu'elle fera tout pour garantir l'application de l'obligation du port de voile. Ils veulent faire croire à la communauté internationale qu'ils renoncent à la violence, alors qu'en réalité, ils continuent de mener ces actions discrètement. Ils nous font vraiment vivre dans la peur. C'est ce que nous a dit une femme dans la province d'Esfahan, qui a reçu un SMS lui ordonnant d'immobiliser sa voiture pendant 15 jours, parce qu'elle conduisait sans porter de foulard. Voilà, donc ce texte prévoit que les femmes et les filles qui apparaissent sans voile dans les espaces publics et sur les réseaux sociaux ou qui montrent une partie dénudée de leur corps ou portent des vêtements légers ou collants s'exposent à tout un ensemble de sanctions qui porteront gravement atteinte à leurs droits fondamentaux. Le projet de loi propose également de condamner les femmes et les filles déclarées coupables d'avoir enfreint la législation sur le port du voile de façon systémique ou en collusion avec des services de renseignement et de sécurité étrangers à une peine de 5 à 10 ans d'emprisonnement ainsi qu'à une interdiction de voyager et à une assignation à résidence dans un lieu désigné. Nous saluons le courage des Iraniennes et des Iraniens qui continuent de s'opposer à l'oppression et se battre pacifiquement pour leurs droits fondamentaux. Nous sommes à leur côté et demandons à la communauté internationale et notamment à la France, de réagir dès maintenant. Ensemble, continuons de scander avec le peuple iranien « Femme, vie, liberté ». Donc nous demandons aux autorités iraniennes d'abolir l'abolition du port du voile, d'annuler toutes les déclarations de culpabilité et toutes les peines prononcées, d'abandonner toutes les charges retenues contre celles qui encourent des poursuites et libérer sans condition toutes celles qui ont été incarcérées parce qu'elles n'ont pas respecté l'obligation du port du voile, et d'abandonner les projets visant à sanctionner des femmes et des filles parce qu'elles ont exercé leur droit à l'égalité, au respect de la vie privée et à la liberté d'expression, de religion et de croyance. Nous demandons aux États de réagir par le biais de déclarations publiques et d'interventions diplomatiques énergiques, d'actionner les recours juridiques permettant de mettre en cause la responsabilité des dirigeants iraniens qui ont ordonné, planifié et commis des violations généralisées et systématiques des droits fondamentaux des femmes et des filles dans l'application de l'obligation du port du voile, d'aider les femmes et les filles à fuir lorsqu'elles le souhaitent, la persécution liée au genre et les graves violations des droits humains commises en Iran, de veiller à ce qu'elles puissent accéder rapidement et en toute sécurité à la procédure de demande d'asile et à ce qu'elles ne soient en aucun cas renvoyées de force dans leur pays. Voilà la situation toujours dramatique des femmes en Iran qui continuent à se battre. On va maintenant écouter ce qui est devenu l'hymne au soulèvement iranien. Cette chanson, Servin Hajipour, qui s'appelle Baraye.
برای توی کوچه رسیدم، برای ترسیدم، به وقت بوسیدم،
برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که بوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی،
برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبالگر و آرزوراش،
برای این اقتصاد دستوری، برای
این هوای آلوده،
برای ولی اصر و درخت های فسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش،
برای سگ های بیگناه ممنوعه،
برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه،
برای چهره ای که میخنده،
برای دانش آموز و برای آینده، برای این بهشت اجباری،
برای نامه های زندانی، برای
کودکان افغانی، برای
این همه، برای غیر تکراری،
برای این همه شون آی توهاری،
برای آوار هونه های پوشانی،
برای احساس آرامه،
برای خورشید پس از شبای طولانی،
برای خالص های اعصاب و بیخوابی،
برای مرد
میهن آبادی،
برای دختری که آرزو داشت پسر بود،
برای زن زندگی
آزادی.
Voilà, maintenant nous allons parler de la crise humanitaire qui dure depuis 2014, notamment à Lampedusa, qui est le reflet de politiques défaillantes. En effet, depuis 2014, c'est près de 28 000 morts qui sont dans la Méditerranée, au fond de la Méditerranée. Vous avez vu qu'en deux jours, des centaines d'embarcations de fortune sont arrivées sur l'île de Lampedusa en Italie. Plus de 6 000 personnes étaient présentes à bord. Face à ce nouveau drame, la réponse des autorités italiennes est très insuffisante, tout comme la solidarité européenne. Un nourrisson âgé de 5 mois seulement a perdu la vie au large de Lampedusa, dans la confusion des opérations de débarquement menées par les gardes-côtes italiens. Sa mère, une mineure guinéenne, a été sauvée avec les 45 personnes avec lesquelles elle voyageait sur une embarcation partie de Sfax en Tunisie. L'agitation était telle à Lampedusa ces dernières heures que l'attention s'est vite déportée de ce drame. En deux jours, plus de 6000 personnes sur plus d'une centaine d'embarcations ont débarqué sur l'île par leurs propres moyens ou avec l'assistance des gardes-côtes. Ces personnes proviennent pour la plupart de pays subsahariens. Nombre d'entre elles sont mineures. Elles sont parties depuis la Libye, touchée récemment par le cyclone Daniel, et surtout depuis la Tunisie. Les nombreuses personnes qui ont débarqué à Lampedusa ces dernières heures sont confrontées à l'insuffisance de l'intervention de l'État italien. Les médecins et autres professionnels de santé et les médiateurs sont en nombre insuffisant pour répondre aux besoins, de sorte que les personnes qui arrivent, après avoir voyagé sur des embarcations de fortune, dans des conditions très difficiles, sont contraintes d'attendre parfois plusieurs heures au soleil pour obtenir une première prise en charge et un transfert dans des bus de la Croix-Rouge. Ce sont les forces de l'ordre qui gèrent la situation à l'embarcadère de Favarolo. La Guardia y a lancé une charge contre un groupe de personnes exilées. Les images qui ont été filmées sont indignes. Entre-temps, le seul centre d'accueil de Lampedusa a largement dépassé son seuil de saturation. Plus de 6000 personnes y sont présentes pour une capacité de 400 places, ce qui engendre une forte promiscuité entre hommes, femmes et personnes mineures. Pour tenter de remédier à la situation, des transferts sont organisés, y compris par des navires militaires, vers d'autres régions italiennes. La Libye et la Tunisie ont conclu avec l'Europe des accords portant sur les flux migratoires. En 2017, l'Italie et la Libye ont signé un mémorandum d'accord sur la coopération dans le domaine du développement, de la lutte contre l'immigration illégale, le trafic d'êtres humains et la contrebande, et sur le renforcement de la sécurité aux frontières. Ainsi, depuis 6 ans, l'Italie et l'Union européenne offrent des financements, des ressources et des formations aux gardes-côtes libyens qui, en retour, interceptent les personnes exilées et les renvoient vers des lieux où elles subissent systématiquement des violations des droits humains tels que des actes de torture, des violences et des viols. En juillet 2023, l'Union européenne a signé un accord similaire avec la Tunisie de Kais Saied. Depuis le début de l'année, les autorités ont durci la répression contre toute forme d'opposition politique et inciter à la discrimination contre les personnes exilées. Depuis des mois en Tunisie, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont victimes de violences, d'agressions, d'expulsions sommaires, d'arrestations arbitraires, et elles sont renvoyées dans le désert. Dans ce contexte actuel, des personnes continuent de mourir en mer. L'équipage du navire Nadir de l'ONG allemande rapporte des témoignages d'un groupe de naufragés secourus lors de leur traversée entre Sfax et Lampedusa. Malgré la forte augmentation des départs, aucune opération européenne coordonnée de recherche et de sauvetage n'a encore été mise en place et l'intervention des ONG continue d'être entravée. Ces témoins ont fait état d'au moins 40 personnes noyées sous leurs yeux, tandis que coulait l'embarcation en fer sur laquelle ils voyageaient. Le gouvernement italien s'obstine à attaquer les ONG qui mènent des opérations de recherche et de sauvetage. Dernièrement, le navire Mar Jonio de l'ONG Méditerranée, Saving Humans, le seul de la flotte de sauvetage civil battant pavillon italien, a été mis à l'arrêt et soumis à une inspection de plus d'une semaine, au terme de laquelle a été sommé de retirer du navire, avant le départ, le matériel et les fournitures embarquées à bord pour l'exécution du service de sauvetage. Un ordre scandaleux et inacceptable, de même que la menace de conséquences pénales pour nos armateurs. Selon l'ONG, par cette décision, les autorités cherchent un prétexte. Le navire est en effet reconnu comme équipé pour l'activité de recherche et de sauvetage et il est enregistré en tant que tel au registre naval italien. Et pourtant, il ne répondait pas aux critères de deux circulaires émises en décembre 2021 et février 2022 qui requièrent des caractéristiques techniques particulières en ce qui concerne la coque. Une affirmation absurde en soi, a souligné Méditerranée, ajoutant que le gouvernement italien voudrait en faire la norme pour tous les navires, les pavillons européens afin d'entraver l'ensemble de la flotte civile. La dérive morale de l'Europe. Au niveau européen, on constate des signes d'opposition à la perspective d'un engagement commun reposant sur le principe de la responsabilité partagée, ce qu'on demande depuis des années. L'Allemagne a bloqué la procédure de sélection des personnes exilées arrivant d'Italie. Il s'agit du mécanisme de solidarité reposant entièrement sur le volontariat et insuffisant, par lequel les pays européens décident d'autoriser ou non le transfert de personnes exilées sur leur territoire. La position allemande semble intervenir en réaction à la décision prise par l'Italie en décembre dernier de suspendre le mécanisme lié au règlement de Dublin en refusant d'accueillir les personnes exilées qui ont déménagé en Allemagne après être entrées sur le territoire de l'Union européenne en Italie et dont la demande d'asile au titre du règlement de Dublin doit être examinée par les autorités italiennes. Ce qui est en effet absurde parce que ce règlement de Dublin porte la charge sur les pays limitrophes, et ce qui n'est pas de la solidarité européenne. La France a également annoncé son intention de renforcer les contrôles entre Menton et Vintimille. Il s'agit d'une zone où la frontière est fermée, militarisée pour les personnes exilées depuis des années. Compte tenu des positions de Berlin et de Paris, la discussion relative au pacte européen sur les migrations, prévue le 28 septembre, s'annonce difficile. Une ébauche de pacte a été présentée au mois de juin. Les États membres semblent s'y accorder que sur un point, l'abaissement des normes en matière de protection pour les personnes qui arrivent sur le sol européen. Le texte prévoit en effet la mise en place de mesures qui conduiront à des souffrances, notamment le maintien en détention, sur des périodes allant jusqu'à plusieurs mois, de personnes dans des centres fermés près des frontières et la possibilité de renvoyer des personnes en quête d'un refuge vers des pays considérés comme sûrs. Face à la nécessité de repenser les politiques migratoires en vue de protéger les personnes et d'adhérer au principe de la responsabilité partagée, le pacte européen risque, au contraire, de créer de plus grandes divisions entre les pays situés aux frontières extérieures de l'Union et les pays situés à l'intérieur, et il s'éloigne de plus en plus du concept de solidarité et de protection des droits. Enfin, je vais finir, par, une fois n'est pas coutume, par citer le pape François, qui dernièrement, au stade Vélodrome, a dit « Ne nous habituons pas à considérer les naufrages comme des faits divers et les morts en mer comme des numéros. Non, ce sont des noms et des prénoms, ce sont des visages et des histoires, ce sont des vies brisées et des rêves anéantis. » On va maintenant changer de sujet et parler des Jeux Olympiques de 2024. Et vous allez écouter une interview de Katia Roux, qui est chargée de plaidoyer à Amnesty International France et qui parle de la surveillance. Allez-vous être surveillé?
C'est un tournant technologique dans la surveillance qui est vraiment un des pires de ces dernières années.
On parle de comportements anormaux qu'il faudrait repérer.
Les Jeux olympiques et paralympiques ne sont ici qu'un prétexte.
L'impact en matière de vie privée est très grand. « La vidéosurveillance assistée par intelligence artificielle, qu'on appelle aussi vidéosurveillance algorithmique, c'est un procédé technologique qui a pour objectif d'automatiser le traitement des images issues des caméras de vidéosurveillance. Aujourd'hui, à la faveur donc, des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, la France vient d'adopter un cadre législatif, une base légale pour utiliser cette VSA.
Elles pourraient être les invitées les plus discrètes des Jeux Olympiques, des caméras dites intelligentes. Prévue par le projet de loi pour Paris 2024, elle permettrait de scruter les abords des futurs lieux de compétition comme le Stade de France ou la Tour Eiffel, mais aussi les transports en commun.
Concrètement, les algorithmes vont être entraînés à repérer des événements spécifiques, des événements prédéterminés. Et pour ça, ils vont avoir besoin d'énormément de données d'apprentissage, des données personnelles souvent, pour leur apprendre à reconnaître un événement. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être une situation. Et donc à partir de là, le logiciel va produire des alertes, en réalité, dès lors qu'il aura reconnu l'événement pour lequel il aura été entraîné. Et donc il va y avoir une notification auprès donc, des autorités qui vont recevoir sur leur écran une alerte du logiciel qui aura repéré l'événement qu'il aura été entraîné à déterminer.
Il s'agit de mieux détecter les colis abandonnés, les comportements suspects et les mouvements de foule.
Ces technologies comportent des risques de discrimination, d'une part avec les données qui sont fournies pour entraîner les logiciels. Ces données-là peuvent être déjà biaisées, peuvent déjà faire l'objet de biais discriminatoires, c'est-à-dire qu'on peut déjà choisir quelles données vont entraîner les algorithmes. Et donc ces algorithmes vont amplifier ces biais discriminatoires. Donc il y a un risque qu'in fine, les personnes qui soient identifiées comme potentiellement suspectes ou des situations potentiellement suspectes automatisent en réalité ces biais discriminatoires. La deuxième chose, c'est que déterminer ce qu'est un comportement normal ou un comportement anormal, c'est aussi un choix humain et ça peut aussi générer des discriminations qui, là encore, vont être amplifiées, automatisées par le logiciel.
En fait, on donne à la police un pouvoir d'analyse et de contrôle sur nous, sur notre corps, qui est immense. C'est un tournant technologique dans la surveillance qui est crucial, qui est vraiment un des pires de ces dernières années.
Dans le cadre de la loi JO, c'est problématique parce qu'on parle de comportements anormaux qu'il faudrait repérer. Ce n'est pas défini du tout dans le texte de loi. Le texte de loi parle d'événements prédéterminés.
Par exemple, quelqu'un qui est statique trop longtemps, et ça c'est vraiment quelque chose qu'on a vu, il y a eu une expérimentation à la station Châtelet à Paris il y a quelques années pour repérer quelqu'un qui était statique plus de 300 secondes. En fait, il faut prendre un pas de recul. À quel moment c'est suspect d'être statique et surtout si on l'applique ensuite dans l'espace public, quelqu'un qui est statique, généralement, c'est quelqu'un qui mendie.
Dans les débats parlementaires, mais aussi dans l'étude d'impact du texte, on parle certes de colis abandonnés, on parle de mouvements de foule, on parle de comportements anormaux, plus difficiles déjà à définir. On parle aussi de situations présumant la commission d'infractions. Donc on voit là que c'est très très large et en réalité, qui peut définir ce qu'est un comportement normal ou anormal? Est-ce qu'une personne qui se déplace différemment, est-ce qu'une personne qui est statique trop longtemps, est-ce qu'une personne qui tout d'un coup va partir en courant va être signalée comme comportement anormal et faire l'objet d'une alerte? Ça pose beaucoup de questions.
Avec cette loi, les caméras intelligentes pourront être utilisées à titre expérimental, une utilisation qui va donc au-delà des Jeux Olympiques qui s'achèvent en août 2024.
Il n'y a pas que les JO en réalité qui sont concernés par ce dispositif.
Les Jeux Olympiques et Paralympiques ne sont ici qu'un prétexte pour jouer aux apprentis sorciers avec ces algorithmes de surveillance.
L'information du public est compliquée puisqu'en fait les images qui vont être utilisées ce sont les images issues des vidéos caméras, des caméras de vidéosurveillance dans l'espace public, mais aussi des caméras qui sont installées sur les drones. Il sera aussi possible de les coupler donc avec la VSA, la vidéosurveillance algorithmique. Et donc là, l'impact en matière de vie privée est très grande. Pour autant, l'efficacité de ces dispositifs n'a pas été démontrée.
Ça fait plusieurs éditions en réalité qu'on se sert de ces outils. C'était le cas notamment en 2008 à Pékin avec des outils qui avaient déjà été expérimentés dans le métro de New York qui devaient là aussi identifier des comportements suspects. C'était le cas également en 2012 à l'occasion des Jeux Olympiques de Londres. À Sochi en 2014 pour les Jeux Olympiques d'hiver, on a vu un logiciel qui s'appelle VibraImage qui promettait d'identifier ni plus ni moins que l'émotion des passants.
Il y a une tendance des pays, des États à recourir à ces technologies comme étant effectivement les solutions, on va dire, faciles pour lutter contre le terrorisme et contre la criminalité. Et bien souvent, à l'été, quand on passe cette marche, on ne la redescend pas. Et ça ouvre souvent la voie à l'utilisation de technologies toujours plus intrusives. Garantir la sécurité de ce type d'événement, d'un grand événement sportif comme les JO ou d'autres, c'est un objectif légitime en soi. Mais il appartient au législateur de faire la démonstration qu'il n'y a pas de moyens moins attentatoires aux libertés pour atteindre cet objectif. Aujourd'hui, on ne nous a pas prouvé, en réalité, que ce soit le gouvernement ou les députés ou les sénateurs qui ont soutenu ce texte, qu'il n'y avait pas d'autres moyens qui impactent moins la vie privée, qui impactent moins la liberté d'expression, qui impactent moins la liberté de réunion pacifique, qui ne pourraient pas être suffisants, en réalité, pour garantir la sécurité des JO. Ce projet de loi donc, sur les JO 2024 a été adopté en procédure accélérée, sans qu'il y ait véritablement de débat public et politique, dans une actualité qui était extrêmement chargée. Un texte de loi qui va avoir des impacts très très grands et sur plusieurs années probablement, a pu être adapté sans réellement que le public sache de quoi il était question et se rende compte de l'impact sur les droits et les libertés fondamentales. Avec l'adoption de cette loi, la France en réalité devient le premier pays de l'UE à légaliser, créer une base légale, certes expérimentale, mais tout de même de la VSA. Au moment des débats parlementaires, une quarantaine de députés européens ont interpellé leurs homologues français pour leur demander de ne pas adopter ce dispositif, de rejeter l'article 7, parce que ça allait créer un précédent au niveau de l'Union européenne, parce que potentiellement ça allait violer le futur règlement de l'UE sur l'intelligence artificielle, mais aussi parce que quelque part ça envoyait un signal au monde entier et aux autres États qui voudraient utiliser cette technologie contre leur population, un signal de « vous pouvez le faire ».
Il y a l'idée que, vu que c'est un événement exceptionnel, il faudrait des mesures exceptionnelles, et ça permet de rendre plus acceptable cette technologie qui, pour nous, est très dangereuse, très intrusive, parce que c'est vraiment un changement de nature des caméras, un nouvel outil à disposition de l'État.
Il y a ce sentiment, on va dire, assez diffus, que finalement, c'est pas si grave d'utiliser ces technologies de surveillance. Finalement, j'ai rien à cacher. Si ça peut aider à lutter contre le terrorisme, finalement, voilà, ma vie privée en face, c'est pas si important. En réalité, c'est central. Ce sont les libertés fondamentales, ce sont les libertés d'expression, de réunion, peut-être d'association. La vie privée, le droit à la vie privée, ce n'est pas que des immixtions arbitraires dans sa vie privée. C'est aussi la manière dont on contrôle le partage de nos données personnelles. C'est aussi le fait d'avoir un espace privé où on peut affirmer son identité propre. Tout ça, c'est extrêmement important. Et si, petit à petit, ces libertés sont grignotées, on va se retrouver effectivement avec une société où il est de plus en plus dur de s'exprimer, de plus en plus dur de se mobiliser. Et ça nous concerne tous. Il est important que chacun et chacune à son niveau se pose la question du besoin d'utiliser ces technologies de surveillance, mais aussi de l'impact sur les droits humains, sur les libertés fondamentales. C'est pas anodin, en réalité, cette ingérence dans la vie privée. Ça peut effectivement avoir des effets au long cours sur l'exercice de beaucoup d'autres droits. Et donc, il faut pouvoir effectivement interpeller nos dirigeants, nos représentants sur cette question. Par ailleurs, à Amnesty International, on restera extrêmement vigilant et mobilisé sur la mise en œuvre de cette loi, puisqu'elle va concerner un certain nombre d'événements, et on alertera à chaque fois qu'on estime qu'effectivement il y a eu des abus.
Voilà, c'est à surveiller la surveillance. Ne soyons pas dupes, c'est notre droit. Nos droits qui sont en jeu, les droits de chacun. Voilà, on va maintenant parler de l'activité du groupe dinois d'Amnesty International. Donc, nous allons organiser donc cette foire aux livres d'automne, hein, traditionnelle, qui est bien connue des Dinois. Ce sera donc le vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre dans la salle de la Trium. Donc, le vendredi 13, on sera ouvert de 9h à 18h, non-stop, et le samedi 14, de 9h à 14h. Voilà, on a reçu énormément de nouveaux livres. Alors, tous les livres que nous avons sont des dons faits par des sympathisants. Et donc, venez nombreux, vous verrez qu'on a énormément de choix, de romans, de livres d'histoire, de géographie, de sciences humaines, des bandes dessinées, des livres pour enfants. On a aussi des CD, des DVD. Voilà, donc venez nombreux les vendredis 13 de 9h à 18h et samedi 14 octobre de 9h à 14h à la salle de l'Atrium. Voilà, si jamais il y a des auditeurs qui voudraient venir nous aider à installer, on est preneurs parce que plus on est nombreux, plus ce sera facile pour nous. Donc s'il y a des gens qui veulent nous aider à porter les caisses, à ranger les livres, rendez-vous le mercredi 11 octobre à 14h devant la salle de l'Atrium ou le samedi 14 à partir de 14h, toujours à la salle de l'Atrium pour emballer ce qui n'a pas été vendu. Voilà, donc n'oubliez pas cette foire aux livres.
Alors 13 et 14, donc c'est vendredi et samedi, les horaires, pardon.
Alors le vendredi c'est de 9h à 18h, voilà. Non-stop, et le samedi de 9h à 14h. Alors nous allons aussi donc, s'occuper des antennes jeunes de Digne. Alors pour l'instant, il y a une antenne jeune au lycée Pierre-Gilles de Gênes qui redémarre. Donc il y a une responsable, une nouvelle responsable de l'antenne jeune puisque le dernier a eu son bac et est parti faire des études supérieures. Voilà, donc cette antenne jeune redémarre au lycée Pierre-Gilles de Gênes. Et puis nous avons le projet de création d'une antenne jeune au lycée Alexandre Davinel. Ça fait de nombreuses années que les jeunes de ce lycée nous le demandent, mais pour jusqu'à maintenant, il y avait une opposition un peu incompréhensible de la direction. Tout a changé cette année et on a bon espoir de pouvoir créer une antenne jeune et de permettre au lycée de s'engager en faveur des droits humains. C'est un engagement qui n'est lié à aucun parti, puisque nous sommes apolitiques et religieux. C'est un engagement qui permet aux jeunes de travailler pour les droits humains. Donc, dans cette perspective, nous allons intervenir dans des classes pour parler de la Déclaration universelle des droits de l'homme, puisque c'est notre base de travail, et puis pour parler aussi d'Amnesty International et de ce que peuvent faire les jeunes au sein de notre mouvement, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux au sein des antennes jeunes, mais aussi dans les instances dirigeantes. Nous avons maintenant des jeunes. Voilà, on a aussi en projet une exposition de soutien à un artiste dissident qui est emprisonné et en grève de la faim à Cuba. Alors je vous en ai déjà parlé à ce micro, hein. C'est un artiste dissident cubain qui s'appelle Luis Manuel Otero Alcantara. Il est entré en grève de la faim et de la soif pour la sixième fois depuis son incarcération à la prison de haute sécurité de Guanaray. Il exige sa remise en liberté. L'artiste dissident, emprisonné depuis qu'il a tenté de se joindre aux manifestations antigouvernementales du 11 juillet 2021, a débuté une grève de la faim et réclame sa remise en liberté. Luis Manuel Otero Alcantara se déclare en grève de la faim et de la soif avant le deuxième anniversaire des manifestations du 11 juillet. L'artiste il a 35 ans, il a été condamné en juin 2022 à 5 ans de prison pour insulte au symbole de la patrie, outrage et trouble à l'ordre public. Il s'agit de la sixième grève de la faim de Luis Manuel. Il a été arrêté lorsqu'il sortait de chez lui à La Havane pour rejoindre les manifestants. C'était une manifestation qui demandait d'avoir du... Ils avaient faim et demandaient d'avoir une vie décente. L'artiste refuse d'accepter la prison comme destinée, refuse d'accepter les barreaux infinis, les lits de pierre, la lumière blanche jamais éteinte, les 20 minutes d'appels téléphoniques par semaine, les visites familiales une fois par mois et sous étroite surveillance. Amnesty International avait demandé au président cubain la libération immédiate et inconditionnelle de Luis Manuel Otero Alcantara, considéré par l'Organisation de défense des droits humains comme un prisonnier d'opinion, ainsi que celle de toutes les personnes injustement emprisonnées. Un mois auparavant, l'artiste, dont la libération a également été réclamée par les États-Unis, avait demandé qu'une réponse lui soit donnée après qu'il ait accepté une proposition du gouvernement de quitter le pays. Voilà, donc nous continuons à envoyer des lettres, des cartes pour demander sa libération. Et nous avons eu l'idée d'interpeller les artistes de la région en vue d'une exposition pour faire parler de son cas et pour demander sa libération. Donc il y a une vingtaine d'artistes déjà qui nous ont répondu. On a déjà des œuvres qui sont réalisées, des gravures. Pierre Laroche a d'ailleurs été le premier à nous envoyer ses gravures. Pierre Laroche a quitté Digne, mais c'est un militant des droits humains de longue date qui a beaucoup travaillé au Secours populaire également. Et je me permets de le remercier au nom du groupe pour sa rapide création. Et puis on a des artistes, alors on ne fait pas de sélection, hein, des amateurs, des professionnels, hein, puisque on a notamment Frédéric Maillard, hein, qui est une sculptrice de grand talent professionnel, qui nous a promis une œuvre. On a aussi une autre œuvre sculptée de Maryse Bravin, qui est professeure aussi d'art plastique. Et puis beaucoup d'amateurs, hein, qui nous ont fait des tableaux ou qui sont en train de les faire, des tableaux, des sculptures, des peintures, des gravures, des photomontages, tout un ensemble d'œuvres. Donc ces œuvres seront exposées à la médiathèque de Digne-les-Bains dans un premier temps, la semaine du 4 au 9 décembre. Alors le 4, c'est le lundi, la médiathèque est fermée au public, on installera l'exposition et elle sera visible du mardi 5 au samedi 9 décembre. Et le samedi 9 décembre, ce sera une journée particulière puisque nous organiserons également, au pied de cette exposition, notre campagne 10 jours pour signer, où nous choisissons chaque année 10 cas de personnes ou de groupes de personnes dont les droits ont été violés. Et nous essayons d'obtenir un maximum de signatures de pétitions, d'envoi de cartes pour ces personnes injustement emprisonnées. Voilà, donc ça sera le samedi 9 décembre. Voilà, donc on va finir cette émission en écoutant une chanson de Barbara Pravi. Lève-toi. Merci à tous.
Lève-toi, foule, ne regarde pas le monde qui s'écroule, sans rien faire en pensant qu'à ta gueule, sans bouger, sans t'armer de conscience. Ne laisse pas s'installer la violence, le rejet de l'autre et l'ignorance, que nos voix ensemble se soulèvent. Et nos mains unies enfin nous relèvent. Lève-toi foule, montre que dans ton sang ce qui coule sont des fleuves de temps, de batailles, de libertés arrachées pour que brillent nos visages ensemble, nos pupilles, nos rêves, nos idées, nos idylles. Les larmes sur nos joues sont du sel. Marchons sous le même soleil, la même nuit, la même lune. Lève-toi, fils, si ici nous ne sommes que poussière, toi et moi, on est enfants d'une seule terre. Fais honneur à tes mères, à tes filles, fais honneur à tes sœurs, à leur vie, elles qui ont pour tous payé le prix trop cher du silence. تحيي que toutes les croyances, l'amour plus grand que tous les pouvoirs.